Bon après-midi. Alors, ça fait plaisir de vous rencontrer. Comme vous le savez, il s'agit de deux demi-sermons. Il arrivait parfois que M. Armstrong donnait une sermonnette et quelqu'un d'autre donnait le sermon. Donc, ça ne fait absolument rien de donner un demi-sermon. En fait, je n'ai pas terminé l'autre jour le livre des Philippiens. J'avais l'intention de le compléter la dernière fois, mais je n'ai pas pu couvrir les quatre chapitres. Vous pouvez vous rendre à l'Épître aux Philippiens. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le temps s'est écoulé avant qu'on arrive à la fin du livre. Je pense que la majorité d'entre vous, vous pouvez vous rappeler les trois premiers chapitres du livre que j'ai surnommé le livre positif. On y parle des mots joie et de se réjouir, et on retrouve ces mots partout dans le livre, et nous allons voir qu'on les retrouve encore une couple de fois au chapitre 4. Mais c'est réellement un livre qui parle de regarder vers l'avenir et d'adopter une attitude positive, si vous vous en souvenez. On peut peut-être jeter des petits coups d'œil un peu partout. Je crois avoir le temps de faire cela. Lorsque vous êtes déjà rendu au chapitre 2, on voit ici qu'il est écrit « Rendez ma joie parfaite ». Et le livre met en évidence, entre autres, le fait d'avoir les mêmes sentiments, hein, d'avoir la même idée, de penser de la même façon. Et Paul en parle après avoir critiqué deux personnes qui, justement, n'ont pas la même façon de penser. Et il fait cela d'une façon plutôt remarquable, chose que nous allons voir un peu plus loin. Et bien entendu, il y a plusieurs autres éléments qui font partie des instructions destinées aux chrétiens. Ensuite, nous arrivons au chapitre 3 où il est écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Alors, cela semble souligner presque la conclusion de sa lettre, mais au verset 4 et verset 8, vous voulez qu'il recommence la même chose, il dit au reste, de la même manière. Ceci signifie que même lorsque vous écrivez des lettres inspirées par Dieu, il est possible d'avoir encore une fois de nouvelles idées juste avant la fin, de vouloir commenter. On peut s'apercevoir que le livre emprunte encore une direction différente au début du chapitre 3. Et dit à nouveau, pas pour la dernière fois, mais dit à nouveau, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, nous avons fait, nous, cette chose-là. Hein? Nous revenons d'une fête qui a duré 8 jours où nous devions nous réjouir dans le Seigneur. Ça n'a pas dû être difficile de faire cela. On devrait s'attendre à ce que Dieu n'ait pas besoin de nous dire, de nous réjouir lorsqu'on s'en va à la fête. Mais pourtant, il a ses raisons pour dire cela. J'ai déjà donné d'ailleurs des sermons à ce sujet pour expliquer pourquoi il le dit, pour quelles raisons nous devons nous réjouir. Essentiellement, c'est parce que le monde entier va observer à ce moment-là la loi de Dieu. Et cela va s'accomplir pendant 1000 ans. Et si on regarde les proverbes, ils disent « Heureux celui qui observe la loi ». Il est aussi dit de craindre l'Éternel. Alors nous recevons l'ordre d'aller à la fête et de craindre l'Éternel et de nous réjouir. Et un autre proverbe dit, Heureux celui qui craint toujours. Donc, lorsque le monde entier observera la loi de Dieu, alors le monde se réjouira. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un monde qui est misérable à l'extérieur. Il est littéralement rempli de malheurs, de misères, de difficultés. Il est totalement rempli de maux et de maladies. Alors nous nous rendons à cet endroit où c'est tellement merveilleux que lorsque nous revenons de la fête, nous devons recevoir un message qui nous répète que si jamais nous avons cette déprime après la fête, de ne pas lui permettre de prendre le dessus. Alors espérons que nous allons être en mesure de nous réjouir pendant toute l'année, mais non pas seulement pendant 8 jours. Si les gens se réjouissaient pendant toute l'année, de la même façon que le commande, par exemple, le livre des Philippiens. Et en passant, la Bible a au-dessus de 900 versets sur la joie et le fait de se réjouir. En fait, je crois que c'est 894 versets qui parlent de la joie dans la Bible. Et curieusement, les gens croient que Dieu est un être triste, un être sévère, un être dur, un être négatif qui ne cesse de tonner du haut des cieux, tu ne feras pas. Et cela contrairement à un Dieu qui est positif. Il nous dit des choses que nous devons faire et que nous devrions faire et que si nous les faisons, ce sera pour notre bien. Encore une fois, je le répète, avec tous ces endroits-là où on nous dit de nous réjouir, On penserait normalement que les gens pourraient aller à la fête et ne pas être obligés de se faire dire de se réjouir. Et j'ajouterais que même si Dieu nous dit de nous réjouir pour aller à la fête, il y en a qui ne se réjouissent pas. Certains ne le font pas. Si votre façon de vivre en est une qui est joyeuse, ce n'est donc pas quelque chose qui doit être très difficile. Et ensuite, le chapitre 3 continue à se développer. Et après avoir fait rapidement le résumé ou la revision de ce chapitre-là, le chapitre 3 arrive à la fin en disant que notre citoyenneté à nous est au ciel. Le mot grec pour citoyenneté est politeia, qui est à l'origine en fait du mot politique. Alors il est possible que j'en ai déjà parlé la fois précédente. Donc notre citoyenneté ou notre cité à nous est au ciel. Et en ce qui nous concerne, nous sommes des citoyens américains qui sommes enregistrés dans le fond à Washington et nous pouvons donc dire que notre citoyenneté à nous est aux États-Unis. Je suppose qu'on peut dire la même chose en ce qui vous concerne, vous qui écoutez. Votre citoyenneté est là où vous êtes. On pourrait donc dire que notre citoyenneté se retrouve dans notre pays d'origine. Donc, je reprends ce que nous avions peut-être lu la dernière fois, au verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais je le répète encore, le monde croit que lorsque nous mourons, nous allons au ciel, mais comme nous pouvons le voir, ce n'est pas ce que ce verset-là, ainsi que plusieurs autres disent. On peut lire que Christ vient du ciel, parce que c'est écrit ici d'où nous attendons. Donc, Christ vient ici. Christ avait dit, si je m'en vais, je vais revenir. Et il poursuit ici qu'il transformera le corps de notre humiliation. C'est quelque chose qui est vraiment totalement différent du concept d'aller au ciel. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement positif. Et ça rentre parfaitement dans le thème du livre des Philippiens. Donc, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alors, vous pouvez peut-être vous arrêter quelques instants et vous poser la question, est-ce que vous regardez votre corps comme étant un corps d'humiliation? L'anglais emploie le mot vil. Alors, la dernière fois, je me dépêchais en passant rapidement au-dessus de ces versets-là pour terminer le sermon. Et je voulais dire, est-ce que vous sortez du lit à chaque jour et que vous regardez votre corps comme étant quelque chose de vil ou de humble? Bien entendu, en disant ça, là, je ne dis pas que vous êtes laid, c'est pas ça que je veux dire. Mais on peut dire qu'ils sont ainsi parce que nos corps sont physiques et il y a un tas de choses qui peuvent mal aller avec eux. Il n'y a rien de vraiment bon dans notre chair. Paul disait, ce qui est bon, en fait, je le sais, n'habite pas en moi. Il n'y a rien de bon en nous. Nous savons très bien que le monde enseigne que les gens sont intrinsèquement bons et que de temps à autre, ils vont faire quelque chose qui est mal. Même les chrétiens qui sont de l'autre côté de la rue ici vont se faire dire demain ce genre de choses. Qu'occasionnellement, ils font des choses qui sont mal et mauvaises, et que dans ce sens-là, oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vérité, par contre, lorsque vous avez vraiment la vue d'ensemble, la Bible, que vous la comprenez, c'est que les êtres humains sont intrinsèquement mauvais, et que seulement de temps à autre, et souvent même par accident, vont faire quelque chose de bien. C'est la vérité de la Bible, ça. Et cette idée même, ce principe même, va à l'encontre du concept de l'évolution, qui veut que l'être humain soit toujours en croissance, en train de s'améliorer et de devenir toujours meilleur. Bien sûr, si ce concept-là était vrai, le monde deviendrait toujours de mieux en mieux, toujours meilleur, au lieu de toujours empirer, comme nous le voyons, plus débauché et décadent, plus dégénéré, comme nous sommes capables de le constater dans le monde actuel. Et tout cela vient, bien entendu, du fait que les gens n'ont jamais réalisé que dans leur chair, il n'y a rien de bon, que dès le moment de notre naissance, nous possédons tous un corps qu'on pourrait qualifier de vil ou de méprisable. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui le dit. Je ne fais que répéter les paroles de Dieu ici, pour ceux qui croient. C'est notre cas, alors que la majorité n'y croit pas. Il est écrit qu'il transformera le corps de notre humiliation. Donc, si nous voyons notre corps comme méprisable, que vous ne voyez rien qui soit intrinsèquement bon dans votre corps, rien qui vaille la peine d'être gardé, hein, d'être glorifié ou d'être adoré. Donc, vous voulez qu'il soit changé, transformé. Il sera normal d'être intéressé beaucoup plus par un corps qui sera fait à la ressemblance du corps de Dieu. Si vous regardez votre corps et vous dites, il n'y a rien de bon ici qui vaut la peine d'être gardé. Nous savons qu'il y a des gens qui sont, comment qu'on appelle ça déjà, cryogénés. Ça a été le cas, entre autres, de ce grand joueur de baseball-là, Ted Williams. On sait que son fils, qui est maintenant mort, et sa sœur se sont même affrontés devant les tribunaux à ce sujet-là. La sœur voulait que le corps soit détruit, tandis que le fils, lui, voulait conserver ce corps-là. En fait, c'est peut-être même l'inverse, là, je m'en souviens pas. Donc, ils ont pris le corps de leur père pour le faire congeler, soit dans l'hydrogène liquide ou un liquide quelconque. Et le but était de le conserver, justement, congelé, parce qu'ils s'attendent à ce que bientôt, on soit capable de cloner les gens. Et ceci a amené cette chicane entre deux enfants. Un disait, non, bientôt, notre père pourra être cloné et ramené à la vie. Tandis que l'autre disait, non, laisse-les mourir. Alors, comme résultat, vous aviez Ted Williams, qui était sans doute le plus grand joueur de tous les temps, qui, à mon avis, quand j'étais jeune, dépassait même Babe Ruth et tous les autres grands joueurs que nous avons connus. Les gens l'avaient surnommé la splendeur splendide. Et il s'était sans doute le meilleur joueur qui a jamais vécu, si vraiment vous regardez ce qu'il a fait. Il a raté 6 années de la cédule parce qu'il est parti 4 ans pour combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a combattu 2 ans dans la guerre de Corée également. Et les autres joueurs, comme je vous disais, Babe Ruth et Barry Bonds, n'étaient même pas dignes de porter son nom. Donc, comme je le disais, vous avez le corps de Ted Williams qui est là, et les enfants disaient, pourquoi est-ce qu'on le détruirait alors qu'on sera capable d'avoir justement notre papa qui reviendrait? À l'aide de 2 cellules, tout simplement, on pourrait le cloner et puis on pourrait le revoir avec nous. En réalité, si vous me permettez d'être direct, tout ce que vous seriez capable d'avoir, c'est encore un corps méprisable. Et je pense qu'on peut dire que Ted Williams était un être humain décent, d'après les différents rapports qu'on a eus de sa personne. Comme tous les autres êtres humains, d'ailleurs, qu'on pourrait dire. Donc, tout ce qu'on réussirait à obtenir, un autre corps méprisable. En d'autres mots, avoir le corps que j'ai une fois, c'est suffisant. Et avoir le corps que vous avez une fois, c'est suffisant. Je désire un corps glorieux. Et quelle meilleure pensée pouvons-nous avoir dans nos vies que de voir notre corps tout simplement disparaître? C'est ce qui est arrivé à mon épouse il y a peu de temps. Son corps méprisable est maintenant parti, et le prochain qu'elle aura sera un corps glorieux. Et la même chose est vraie de mes parents et de toute autre personne qui est morte dans la foi, incluant Mme Anna de John, qui était âgée de 100 ans. Alors, on poursuit au verset 21, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, nous savons que Christ sera capable de faire une telle chose. Alors, nous sommes rendus maintenant au chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, et vous allez remarquer à plusieurs reprises dans le chapitre 3, comme au chapitre 4 ici, où il utilise le mot « frère », en anglais « brethren », hein, « frère et sœur ». En fait, Paul utilise ce mot-là avec beaucoup d'affection ici. Alors, vous l'avez dans le chapitre 3, vous l'avez ici au chapitre 4, verset 1. Vous l'avez aussi au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Et puis, il le répète encore un petit peu plus loin au verset 8, « Au reste, frères. » Et si je puis me permettre, frères et sœurs, nous devrions plus souvent nous considérer vraiment les uns les autres comme étant frères et sœurs l'un de l'autre, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, on reprend, hein? Paul dit « mes bien-aimés ». Et ensuite, il ajoute « mes très chers frères ». On voit qu'il s'exprime ici avec énormément d'affection. Alors, vous avez des personnes qui sont capables d'utiliser ou d'employer des termes comme ça davantage que d'autres qui le font moins. Mais il faut faire attention aussi, frères et sœurs, lorsqu'on utilise des termes dans le genre. Lorsque nous regardons d'où une grande majorité d'entre nous proviennent, hein, du monde protestant, où l'amour est prêché et tout est fait de façon mielleuse, comme j'en ai parlé lors du sermon d'ouverture à la fête, comment les gens dans ce milieu protestant-là parlent toujours du « doux Jésus » en employant un ton sentimental et en nous rappelant constamment le Christ mort sur la croix ou le bébé dans la crèche, et qu'ils ne parleront jamais du Dieu Tout-Puissant qui a créé les étoiles, les galaxies, les planètes, l'être Tout-Puissant qui a fait cela. Voilà l'image que nous apprenons en nous éloignant de nos anciennes confessions, lorsque nous nous éloignons d'un autre Jésus, hein, un autre Jésus qui provient des confessions presbytériennes, ou méthodistes, ou luthériennes, ou baptistes, comme ça a été mon cas d'ailleurs dans l'église presbytérienne quand j'étais jeune. Alors nous arrivons ici à l'église et nous découvrons l'existence de ce Dieu Tout-Puissant, et que nous découvrons que le Père Tout-Puissant n'a pas l'air d'un vieillard assis dans une chaise berçante avec une grande barbe, mais qu'il est le Dieu qui est responsable de l'ensemble de tout l'univers, le Dieu qui le contrôle pleinement. Mais nous ne parlerions jamais, par exemple, avec ce ton mielleux, doucereux et affectueux qu'on entend parfois. Sinon, nous serions des protestants. Mais ici, Paul parle « mes bien-aimés et très chers frères ». On voit qu'il les appelle d'abord ses frères, et ensuite il les nomme, il leur dit « mes bien-aimés ». Est-ce que vous-même pensez en ces termes-là à propos des autres qui vous entourent dans l'Église? Que ce soit ici, dans la congrégation même, ou ailleurs dans le monde, ou que vous avez dû laisser derrière lors de la fête. Et ensuite, Paul poursuit avec des termes assez extraordinaires et dit « Vous qui êtes ma joie et ma couronne ». Alors, il ne leur dit pas de se réjouir, il leur dit qu'ils sont sa joie. « Vous êtes ma joie et ma couronne ». En d'autres mots, je vous porte sur ma tête en tant que ma couronne et mes joyaux. Ça me rappelle que Dieu nous dit que les cheveux blancs sont une couronne lorsqu'ils sont trouvés sur le juste. Et ensuite, il poursuit en disant « Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur ». Alors, il y a un message ici qu'on retrouve dans ce verset-là quand il dit « Mais bien-aimés ». Il le répète une deuxième fois au sein d'un verset tout à fait moyen en longueur. Alors, Paul le répète « Mais bien-aimés ». Et cela en plus du fait qu'il leur dit « mes très chers frères » et qu'il ajoute qu'ils sont en plus sa joie et sa couronne. Il leur dit aussi de demeurer ferme. C'est une chose qu'on retrouve à différents endroits au sein de la Bible où Dieu nous dit de demeurer ferme. Rappelez-vous que je l'avais souligné dans Éphésiens 6 à un moment donné, c'était répété 4 fois. Paul dit également aux Corinthiens hein, de demeurer ferme, d'être des hommes, hein, de se fortifier. La majorité des gens, en fait, dans la vie, ne prendront pas position et ne demeureront pas fermes. Essayez de mettre au pied du mur un politicien pour voir. Nous sommes en train de nous engager dans la politique de l'année d'élection. Or, dans une année qui n'est pas une année d'élection, la politique ne vaut pas beaucoup la peine qu'on en écrive. Je lisais, par exemple, dans le journal à propos de ce politicien-là, en provenance d'Idaho, qui supposément avait fait des propositions d'ordre sexuel à un policier dans des salles de bain. Alors, il a plaidé coupable, puis ensuite, il est revenu sur sa parole en disant « Non, je n'étais pas coupable. » Je ne sais pas ce que je pensais quand j'ai dit ça. Je veux continuer à demeurer au Sénat. Qui irait se prononcer ou plaider coupable à une chose pareille, puis aller dire « Ah non, je me suis trompé. » C'est pas ça que je voulais faire. Puis essayer de retirer sa plaidoirie de culpabilité. Mais personne ne veut le laisser faire une telle chose. Alors, c'est un événement qui a causé toutes sortes de remous dans le milieu politique. Ensuite, nous voyons que le président est en train de faire des alliances avec certains démocrates et d'autres républicains qui sont d'accord avec une idée pour combattre en faveur d'une assurance médicale pour des quelques millions d'enfants qui devraient en bénéficier. Alors, quand on regarde toute cette atmosphère-là, on peut réellement dire que la politique n'est pas une atmosphère très, très plaisante. Ce n'est pas agréable à regarder. Alors, comme je l'ai mentionné, nous rentrons maintenant dans l'année d'une politique d'élection où les gens ne prennent jamais position. Il parle sur de petits points après petits points, et ils sont beaucoup plus préoccupés à ne pas dire de choses qui leur feraient perdre des votes. Ils font attention à leurs paroles de façon à ce que ça ne leur fasse pas perdre une bonne partie de l'électorat des États-Unis. Où on voit d'ailleurs que l'électorat est séparé quasiment à 50%-50%. Partout aux États-Unis, sur à peu près n'importe quel sujet, vous allez remarquer que les gens sont à peu près 50% en faveur et 50% contre. Et il y a peut-être 2 à 3% des gens dans d'un côté ou de l'autre qui sont en mesure, à un moment donné, de faire pencher la balance. Et il n'y a personne qui est prêt à dire « ceci est bien » ou « ceci est mal » et « je me fous complètement d'être élu ou non ». Ce ne sont que les dirigeants qui ont été désignés par Dieu à partir du haut vers le bas, qui sont capables de dire la vérité, car ils n'ont pas à se rapporter aux gens qui se trouvent au-dessous d'eux. Si vous dites la vérité aux gens qui se trouvent sous vous, et que ceux-ci ont le pouvoir de vous démettre, alors on peut se demander qui ferait une telle chose. C'est la raison pour laquelle les diacres dans les églises du monde qui sont assis dans l'assemblée et qui sont responsables de l'embauche et du congédiement des ministres n'ont pas besoin ou n'ont pas peur d'entendre ce ministre-là qui est à l'avant d'eux, de leur dire « Vous savez, vous devez changer et vous repentir. » Et cela parce que les diacres qui entendraient cela diraient « Vous, vous avez besoin de vous trouver un autre travail. Vous n'êtes plus à notre emploi. Allez enseigner aux autres à se repentir, pas à nous autres, parce que nous autres, on signe vos chèques de paye. » On appelle ça un gouvernement de type congrégationnel. Et bien entendu, la démocratie est basée entièrement sur cette même façon de penser. Alors, c'est une autre raison aussi pour laquelle ce qui est important, c'est ce que disent les sondages, hein, le peuple. Les gens devraient plutôt se demander « que disent les chefs qui sont établis sur nous, qui nous protègent? » Souvent, c'est ce qu'ils disent, mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils ont déjà une idée. Mais les journaux, au nom de la liberté de presse et de la liberté de parole, qu'on pourrait résumer entre autres par « rebellez-vous et faites tout en votre pouvoir pour détruire le gouvernement », vont demander aux gens ce qu'ils pensent. Puis, ils vont constamment diviser le pays en rapportant le pourcentage de personnes qui pensent ceci et le pourcentage de personnes qui pensent cela. C'est ce qu'on voit constamment dans les journaux, dans les années d'élection. Ils sont constamment remplis de résultats de sondages. C'est le moment où la politique montre son visage le plus laid. C'est le moment où vous voyez des gens qui mentent, qui volent, qui scandalisent les autres. Et ils font cela plus que jamais. Et la raison de cela, c'est parce qu'ils peuvent justement être élus ou être rejetés. Et puis, en fin de compte, la paye est bonne. Et puis, il y a le prestige. Prestige d'être un député au Congrès, d'être un sénateur, d'être un gouverneur ou même le président. Tout dépendant de ce que vous poursuivez, c'est une position de toute façon de pouvoir et d'influence que vous recherchez. Et en fin de compte, on peut résumer pour toutes ces personnes-là qu'il n'y a personne qui est prêt à prendre position sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est mal et ce qui est bien. Les gens vont élire ceux qui vont leur offrir le plus, ceux qui vont leur faire le plus de cadeaux, hein, dans leur plateforme électorale. Prêt à faire le plus de largesse. Aujourd'hui, personne ne peut être élu s'il dit au peuple qu'il va lui enlever quelque chose. Même si le fait d'enlever quelque chose au peuple pourrait signifier un budget équilibré et sauver le pays. Mais tous ces politiciens peureux-là qui savent qu'ils peuvent perdre leur poste s'ils prennent la bonne décision, s'ils prennent position, ne le feront pas. Ils préfèrent voir leur pays s'effondrer et être détruit. Mais chacun de ces 535 députés et sénateurs devrait être démis de leurs fonctions. Plutôt que de voir n'importe quel d'entre eux perdre leur poste, ils préfèrent voir leur pays dépenser au-delà des budgets. Ils préfèrent voir toutes sortes de corruptions arriver et toutes sortes de pornographies, de déchets sortir d'Hollywood au nom de la liberté de parole et de l'expression artistique. Et toutes ces idioties qui sont en train de détruire le pays. C'est fini l'époque où les gens prenaient position. Alors que j'étais assis à l'aéroport avec les gens avec qui je voyageais, hein, Luc, Jean et Marc, comme je les appelle, je leur ai demandé quels sont les plus grands dirigeants de tous les temps que vous connaissiez, en rapport avec Manassé et Éphraïm. Et en fait, il s'agit peut-être même des dirigeants les plus grands de tous les temps, du moins sous certains aspects. Parce que bien sûr, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, parce que les grands dirigeants, les plus grands dirigeants sont définitivement ceux qui étaient dans la Bible, et on ne peut pas avoir de doute réellement là-dessus. Et à mon avis, ils ont donné les bonnes réponses. Le plus grand des dirigeants de Éphraïm était Winston Churchill, et celui chez Manassé était Abraham Lincoln. Et tout cela parce que ces gens-là ont fait les bonnes choses. Si on se souvient, Abraham Lincoln a été tué pour avoir fait ce qu'il a fait. Et Winston Churchill a été battu aux élections immédiatement après la guerre, après avoir fait preuve devant le monde entier de diplomatie de plus haut niveau, ainsi que de pur courage. Je crois que personne n'en a eu autant que lui. Il a su tenir son bout alors que Roosevelt vacillait. En fait, c'est le peuple américain qui vacillait, allait d'un bord ou l'autre et hésitait parce qu'il voulait pas aller en guerre. Il n'était même pas capable de voir la menace qui planait. Et ce grand homme a été battu aux élections, rejeté de son poste de direction par le peuple britannique, qui ne s'est même pas aperçu qu'ils étaient à un cheveu de disparaître en tant que nation. Et de voir le drapeau avec la croix, la svastika, la croix gammée flottant au-dessus de Big Ben. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient faire. En fin de compte, un petit peu plus tard, ils l'ont à nouveau élu, après l'avoir rejeté, après l'avoir expulsé, sans cérémonie, comme on dit. Toute personne aujourd'hui qui prend une position ferme doit s'attendre à être rejetée peu de temps après. On doit faire ce qui est bien. Les chrétiens, frères et sœurs, n'ont absolument rien à faire. Rien à faire avec ce qui est considéré comme populaire aujourd'hui. Je suis tellement heureux que mes parents aient répondu quand je leur disais, étant jeune, « Oui, mais les parents d'un tel et d'un tel le laissent faire. » Puis mon père me répondait, « Oui, mais t'as pas le père et la mère d'un tel et d'un tel comme parents. C'est moi, c'est nous que tu as. Si jamais ça en venait à ce que ce soit un autre qui soit ton père ou ta mère, tu pourras toujours discuter avec eux autres si tu veux. Mais pour l'instant, c'est moi ton père. » Et ça va rester comme ça. Et puis je me disais, wouh, je suppose que c'est vraiment lui qui est le patron. Et souvent, il utilisait les termes, je ne fais pas de concours de popularité. Je suis ton père, tu es mon fils, et ça va demeurer comme ça pour toujours. Sans compter qu'un jour, tu vas aussi avoir des enfants. Et souviens-toi de ça. C'est ce que j'ai fait. Et mon fils va vous le dire que je m'en suis bien rappelé. On poursuit au verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Wow! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ces deux personnes-là sont nommées dans la lettre ici. Je ne sais pas ce qui se passait, peut-être qu'ils se querellaient, ou étaient en désaccord quelconque, je ne sais pas. Et en conséquence, Évodie et Saint-Tiche sont pour toujours inscrits dans cette lettre-là, qui leur dit, hey, vous deux, là, faites des efforts et accordez-vous. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles, les femmes, qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Et avec Clément, et oui, Clément ici, c'est lui qui est devenu éventuellement le quatrième pape, celui qui s'appelait Clément de Rome. Il avait apostasié et trahit Paul, bien qu'à ce moment-là, il était toujours fidèle, et il devint éventuellement le quatrième pape. Linus aussi fut pape. Linus était aussi un des collaborateurs de Paul dans les premiers temps, et ça n'a pas pris de temps pour un et l'autre, dès le premier siècle, d'aller rejoindre cette église et devenir les deuxième et quatrième papes. Il est vraiment difficile, hein, de croire qu'il y a eu réellement deux papes qui ont annoncé l'Évangile du royaume de Dieu. Peut-être est-ce que vous ne l'avez jamais réalisé, mais il y a eu réellement deux papes qui ont réellement observé la vérité divine. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Vous savez, au 20e siècle, nous avons eu ce grand serviteur de Dieu qui nous a enseigné cette extraordinaire façon de vivre et dont les fruits étaient apparents partout. Mais ces deux papes-là croyaient exactement les mêmes choses que nous avions apprises au tout début, puis ils sont devenus catholiques. Alors peut-être que je l'ai déjà mentionné, mais il y a un ancien avec son épouse qui sont venus au service funéraire de mon épouse, qui a eu lieu maintenant il y a 11 semaines. Alors ça faisait déjà 14 ans et demi que je ne les avais pas vus. Je les ai salués, je leur disais bonjour. Tout était très amical, puis on échangeait, puis je disais, où est-ce que vous êtes? Je leur demandais, où est-ce que vous êtes rendus maintenant? Il m'a répondu, ah, oh, nous sommes retournés à l'Église catholique. Et c'était un ancien. En fait, il y avait trois anciens ici dans la région de Cleveland. Alors, c'est absolument incroyable. Ils sont retournés à l'Église catholique. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui peut se passer, qui peut arriver. Donc, vous voyez ici, nous avons l'exemple de quelqu'un qui semblait vraiment d'être avec la véritable Église de Dieu et qui est retourné vers l'Église catholique. Alors, je n'ai donc pas de difficulté à croire que Clément de Rome ou que Linus soient devenus des papes. Et il poursuit ici en disant, et mes autres compagnons d'œuvre. Alors, Clément était un des compagnons d'œuvre de Paul. Il avait l'air de quelqu'un qui était honnête et droit, de quelqu'un qui était capable de prendre position et de demeurer ferme. Dans l'ère de Philadelphie, on dirait quelqu'un qui était capable de retenir toute chose. Voilà de quoi il avait l'air. Tenir ferme signifie exactement la même chose que retenir toute chose, retenir la vérité, et dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, parce que je suis en train de travailler justement sur un sermon au sujet du livre de vie. On retrouve plusieurs passages au sujet du livre de vie dans la Bible, et c'est un sujet qui est extraordinaire. Il est quand même assez intéressant de noter ici que Paul croyait que cette personne-là était tellement fidèle qu'elle était déjà inscrite dans le livre de vie. Si vous voulez un petit aperçu, un petit avant-goût du sermon, les gens peuvent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Et je dis ça là, en présumant que Clément était converti. Mais il est aussi possible que Clément n'ait pas été converti, hein, qu'il ait été tout simplement de livret parmi le bon blé. Et peut-être est-ce qu'il avait l'air justement d'un compagnon d'œuvre, comme 2000 ministres que j'ai déjà connus autrefois, ainsi que 1200 employés qui semblaient aussi être des compagnons d'œuvre, y compris leurs conjoints, c'est-à-dire près de 6000 personnes. Et pourtant, la grande majorité ne l'était pas convertie, pas plus que le bois de ce lutrin ici. Donc, ce genre de choses a pu arriver. Mais là, vous avez quelqu'un ici qui a choisi de diriger ce qu'on appelle l'Église universelle, plutôt que de conserver son nom dans le livre de vie. Et bien entendu, on peut dire ici que Paul n'aurait jamais cru qu'une telle chose se passerait à ce moment-là. Et on poursuit au verset 4, et on retrouve le même mot encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est le même Paul ici qui disait prenait plaisir, il se glorifiait de ses afflictions. Et il a dit également qu'il se plaisait dans les calamités et dans ses détresses, de même que dans les persécutions. Ce n'est donc pas étonnant de voir une personne qui était capable de toujours trouver quelque chose de bon dans tout, puisse nous dire aujourd'hui, réjouissez-vous toujours. À quel point cet ordre-là est-il important? Il le répète, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Il ne balbutiait pas ici, là. Ne bégayait pas. Il le répétait pour le souligner car c'était important. Il disait, réjouissez-vous toujours. Et non seulement ça, mais je le répète, réjouissez-vous. Et puis il le disait dans le chapitre 3 aussi. Donc lorsqu'il le dit au verset 4, réjouissez-vous toujours, c'était déjà une répétition. Et il parle de la joie à plusieurs endroits aussi par la suite. Même il venait de le faire trois versets plus précédents où il disait, vous êtes ma joie. Vous êtes donc en mesure d'apprécier que si Paul voyait le fruit de son ministère, des gens pour lesquels il était le père dans l'Évangile comme étant sa joie et sa couronne, il ne les considérera pas comme quelque chose de passager dans sa vie. Il n'aurait pas vu les fruits de ces conversions-là dans toutes les congrégations, comme celles de Rome, de Thessalonique, de Philippe, de Colosse, d'Éphèse et les autres, comme des joies intermittentes. Il aurait ressenti sans cesse de la joie, puisqu'il les voyait comme des joyaux brillants, faisait partie d'une couronne qu'il portait continuellement. Vous pouvez donc comprendre la façon de penser de Paul par ses écrits. Malgré tout ce qu'il avait traversé, il était toujours capable de trouver quelque chose d'heureux dedans. Il y trouvait toujours du bon. Parfois, dans le travail que j'ai à faire, je dois critiquer. Je dois poser des jugements, faire des évaluations. Et les évaluations que je fais ne sont pas toujours, ce qu'on pourrait dire, positives. Mais j'ai appris, il y a bien longtemps, qu'il ne faut pas s'arrêter à ça seulement. Il faut se poser la question, comment pouvons-nous faire de la citronnade avec un citron? Comment peut-on tourner quelque chose de négatif en quelque chose de positif? Paul a écrit Romains et il n'a pas dit, par exemple, toutes les choses sont bonnes. Je parle de Romains 8, 28 à 30 ici. Il a écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Il n'a pas dit que toutes choses étaient bonnes. Mais en fin de compte, il est possible de tourner ça pour un bien, pour quelque chose de mieux. Vous pouvez vous arranger pour que ça fonctionne et obtenir ainsi une fin heureuse. Malgré tout, on sait que c'est pas toute chose qui a une fin heureuse. Et la raison de ça, c'est parce que les gens ne vont pas suffisamment loin dans ces circonstances-là. Même les choses les plus négatives que vous avez à traverser peuvent vous conduire à une fin heureuse. Et c'est pourquoi vous avez Romains 8, 37 qui nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous pouvez, en fin de compte, toujours vaincre si vous êtes vraiment un Israélite. Si nous revenons au sermon qui a été donné à la fête. Ensuite, verset 5 de Philippiens, que votre douceur ou votre modération, comme le dit l'anglais, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Faites attention à ce que vous faites. Soyez très prudent avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous arrangez pas pour que cette douceur-là ou cette modération, comme on dit, ne soit bénéfique pour vous-même. Arrangez-vous pour que les autres le sachent. Lorsqu'il y a une occasion réelle et que les gens vous regardent, n'exagérez pas dans quoi que ce soit, jamais. Hein, il est dit, sois connu de tous les hommes. Montrez que les chrétiens sont des gens qui sont capables de se contrôler. Alors nous venons de voir qu'ils sont des gens qui sont fermes, qui sont positifs, qui se réjouissent. Mais ils se contrôlent eux-mêmes aussi. Nous vivons dans un monde qui est littéralement noyé dans le plaisir. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Hein, mettez-vous-en en arrière de la cravate, comme le dit le dicton. On voit tellement de choses dans les centres d'achat. Les gens veulent ceci et ceci et cela. Et puis les gens mangent trop. J'ai pris pas mal de temps alors que je marchais dans les différents aéroports. Et même en m'en revenant vers ici, j'ai remarqué cette jeune mère qui poussait son bébé dans un carrosse. C'était une jeune mère. Elle était énorme. Puis, son mari marchait à côté d'elle alors qu'il poussait le bébé sur le trottoir, là. Énorme qu'elle était. Et je me suis passé la remarque, quelles sont les chances qu'a son enfant? Ce bébé-là va grandir et il va être plus ou moins le fils ou la fille de sa mère. Tout ça parce que les gens ne montrent pas ou ne font pas preuve de modération lorsqu'ils mangent. Je devrais souligner davantage l'importance qu'il y a à faire de l'exercice et de le faire avec modération. Il y en a qui en font trop d'exercices. C'est ce que je faisais au début de ma vie. Par contre, vous en avez d'autres qui ne font aucun exercice. Vous allez avoir des gens, par exemple, qui vont étudier la Bible pendant des heures de temps, mais ils n'ont pas le temps d'en vivre. Vous allez en avoir qui vont faire des jeûnes trop. Il y en a d'autres qui n'en feront pas assez. Vous allez avoir des gens qui n'étudient même pas la Bible. Et cela même parmi nous, il y en a qui n'étudient pas la Bible. Ils ne prennent pas le temps de prendre le livre pour le lire. Il y en a d'autres qui boivent trop. Ils font toutes les choses avec excès. Ou encore, ils ne le font pas du tout. Vous savez, la Ligue féminine de tempérance est en réalité la Ligue féminine d'abstinence. Elle ne prêche pas la tempérance avec l'alcool. La tempérance, c'est avoir le contrôle sur soi. Elle prêche l'abstinence. En fait, elle n'enseigne pas la modération. Tout ce que vous faites, et ceci peut faire le sujet d'un sermon, bien entendu, doit être fait de façon modérée. Il est écrit au verset 5, le Seigneur est proche. Alors, il n'était pas proche en termes de son retour sur terre il y a 2000 ans de cela. On sait que Paul a d'abord pensé que c'était cela, mais à d'autres endroits, Paul a dit, et voulait sans doute dire tout comme il voulait dire ici, le Seigneur est là. Parce qu'il surveille, il voit, il surveille ce que vous faites, ce que vous dites. En fait, le verset souligne ici que le monde en général et alentour de vous est proche, hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes, ne signifie pas que vous deviez commencer à vous promener puis dire, vous savez, j'ai un contrôle ou une tempérance parfaite, pour ensuite vous diriger vers encore un autre groupe ou une autre foule pour leur dire, vous savez, j'ai une énorme tempérance personnelle. Après tout, c'est marqué que ça soit connu de tous les hommes. Alors non, vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes en train de dire à tout le monde que vous l'êtes. Alors laissez les autres parler de votre modestie. Alors ce n'est pas ce que ça signifie, bien entendu. En réalité, ce que ça signifie, c'est que si quelqu'un vous regarde et que vous êtes en train, par exemple, de conter une blague, alors vous allez en faire une, tout simplement. Vous ne commencerez pas à en descendre toute une série. Remarquez qu'il peut y avoir des temps, à un moment donné, où vous avez des gars ou un nombre de personnes ensemble, alentour d'un feu de camp, et c'est le moment de conter des histoires. Je suis capable de comprendre ça. Des bonnes farces, j'espère. Le genre de farce que le Seigneur qui est proche ici serait capable de trouver drôle. C'est malheureusement pas toujours le cas avec les farces qu'on raconte. Alors, je le répète, le verset dit ce qu'il dit ici. J'ai déjà parlé du verset 6 dans d'autres sermons, je vais aller donc un petit peu plus vite. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Il s'agit d'un des passages les plus importants de la Bible, que je lis souvent à genoux, à toutes les fois que vous faites des demandes. Et il est écrit ici de faire connaître nos besoins à Dieu. Alors ces prières-là doivent être faites avec des actions de grâce, avec supplication, qui est un type de prière fervente. Vous faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, mais dans le fond, c'est par des prières et des prières ferventes et avec des actions de grâce. À toutes les fois que vous demandez quelque chose à Dieu, vous devriez le remercier pour plusieurs autres choses. À toutes les fois que vous faites une demande, vous lui dites, « Puis-je avoir ceci? » Quand vous vous adressez à lui comme ça, c'est une question que vous posez. Vous lui faites une requête. Parfois, vous devez amener cette requête-là devant le trône de Dieu à répétition. Vous faites la demande, vous la répétez, hein? Vous la répétez et la répétez. Et il y a d'autres passages qui parlent justement de ce sujet-là. Mais vous devez le faire avec des actions de grâce. Pas seulement avec un esprit de reconnaissance, pas seulement avec une attitude reconnaissante, mais vous devez l'exprimer. Quand c'est écrit ici, ne vous inquiétez de rien, ça ne signifie pas que vous sonnez la charge puis que vous foncez en avant dans le trafic sans rien à regarder d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire juste ne pas vous inquiéter. Hein? Alors, il est normal de pouvoir être prudent au sujet de différentes choses qui se passent dans notre vie. Ça ne veut pas dire de jeter cette prudence-là par-dessus l'épaule. Ne vous inquiétez pas à propos de rien. Ne vous inquiétez pas à propos de vos besoins. Parce que c'est exactement le contexte. Vous savez, le verset se poursuit, en plus, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, ne vous inquiétez pas, Dieu le sait, vous allez l'avoir, il va prendre soin de vous. C'est cela que ça signifie. Si vous vous tourmentez ou rongez les sangs et que vous ne pouvez dormir au sujet de certaines choses, à propos de quoi que ce soit dans votre vie, peu importe ce que c'est, vous ne vous présentez pas devant Dieu en ne vous inquiétant de rien là, pour demander son aide. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous ronge le cerveau et que vous êtes figé là-dessus, alors prenez sur vous. Passez à d'autres choses. Faites connaître votre besoin à Dieu. Et si vous le faites, le résultat sera que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse. Il s'agit d'une promesse absolue ici. Au reste, frères, comme il l'avait déjà dit au début, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà une approche absolument et incroyablement positive envers la vie. Incroyablement positive. Ayez toujours quelque chose de bien et de bon à dire et à penser. Lorsque vous pensez, qu'est-ce qui traverse votre esprit? Il ne reste pas beaucoup de place pour se tourmenter à propos de tout et de rien. On dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, mais ça doit être à propos de choses qui sont vraies. Il y en a plusieurs qui vont dire, « Oh, il y en a qui ont menti à mon sujet, ou encore telle chose est arrivée. » Alors, il est écrit ici, au reste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de respect, ou des choses qui sont justes, équitables, tout ce qui est pur. Et vous savez, tout ce qui se passe dans la vie n'est pas toujours vrai et honorable et juste et pur et aimable. Souvent même, c'est le contraire qu'on va rencontrer. On va entendre parler de choses qui sont fausses, qui sont déshonorantes, qui sont injustes, qui sont impures, qui sont exécrables même. Donc, cela signifie que vous devez vous efforcer de vous concentrer sur l'autre aspect, le contraire de ces choses-là. Et ça, ce n'est pas naturel. Vous savez, j'ai déjà dit qu'il y a des gens qui sont heureux seulement quand ils sont malheureux. Il y a des gens qui veulent être malheureux. Ils se sentent heureux seulement quand ils sont malheureux. Non, non, je suis heureux. Je veux me sentir misérable. Ah, ça me rend heureux. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. C'est vraiment étrange. J'ai déjà découvert il y a très, très longtemps que c'est beaucoup, beaucoup mieux que de se sentir misérable. C'est un peu comme j'ai déjà dit, hein? Mon père m'avait dit, « Fils, tu sais, il y a le rire et les larmes. Et crois-moi, le rire est de beaucoup supérieur aux larmes. Alors, t'es aussi bien d'être heureux. » Bien sûr, c'est le même père qui m'a dit que l'argent n'était pas tout dans la vie. Le 2% restant, c'était la joie, le bonheur. On a eu beaucoup de plaisir avec ce dicton-là. Bien entendu, on parle d'un temps avant que Dieu l'appelle. Et on poursuit tout ce qui mérite l'approbation. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas ce genre de choses-là. La majorité des gens veulent des mauvaises nouvelles. Ils préfèrent des rumeurs et toutes sortes de rapports détestables. Ils veulent que les gens parlent de mauvaises affaires, de façon à ce qu'ils puissent les ruminer. On poursuit ce qui est vertueux. Et le mot « vertu » ou « vertueux » ici, c'est le mot de l'ancienne Bible qui voulait dire s'il y a quelque caractère là-dedans et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vraiment vous faites cela, ce qui va se passer, c'est que c'est ainsi que vous allez aussi parler. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais, et nous retrouvons encore les mêmes mots ici, il nous dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Alors, c'est le sujet de la lettre ici. « Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » En d'autres mots, il leur dit, « Vous vouliez faire tout ce que vous pouviez pour moi, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. » Paul est en train de leur dire, « Je ne vous dis pas cela, là, renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Pas plus qu'il est en train de leur dire qu'il manquait de quelque chose. N'oubliez pas, il s'agit ici du même Paul qui se glorifiait et se plaisait dans les afflictions. Paul avait certains besoins et les membres n'avaient pas l'occasion de lui donner. Alors il leur disait, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre avec ou dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai pour vous également? « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pourriez-vous traverser toutes circonstances possibles? » Vous savez, dans la vie, vous avez deux choses, hein? L'abondance et la disette et toutes les positions qui se trouvent entre les deux. C'est tout. En d'autres mots, vous êtes soit rassasié ou soit vous avez faim ou vous vous situez quelque part entre les deux. Donc, Paul pouvait faire face aux deux extrêmes en tout temps et apprendre par les expériences qu'il vivait à faire face aussi aux situations mitoyennes. Et cela signifie que Paul n'a jamais rencontré de situations dans lesquelles il ne pouvait se débrouiller. Tout le monde aimerait pouvoir faire plus d'argent. On aimerait tous avoir une voiture plus neuve, plus récente, ou avoir plus de vêtements. Mais tout le monde aimerait avoir d'options supplémentaires sur son ordinateur, ou avoir encore un meilleur téléviseur. Mais il arrive parfois que nous puissions nous le payer, et il arrive aussi des fois où nous ne pouvons pas nous le payer. La majorité du temps dans la vie, on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. C'est tout ce qu'on peut faire. et aux États-Unis, ainsi que dans tous les pays démocratiques de l'Occident, avec la bénédiction, hein, du droit d'aînesse que nous avons reçu, généralement, nous faisons mieux que nous débrouiller, beaucoup mieux. En tout cas, certainement mieux que Paul, qui a été battu, qui a fait naufrage ou qui a été en prison. Il a passé à travers tellement de choses. Hein. On a menti à son sujet, on lui a menti. Et malgré tout ce qu'il a dû traverser, il nous dit, au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors j'ai parlé tellement à ce sujet-là que je n'en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on dit ici je puis tout, cela signifie tout. Paul n'a pas dit je vais essayer de tout faire ou je vais faire mon possible. Hein? Non, il nous dit je puis tout au présent. Il ne dit même pas je pense que je puis tout. Il dit je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Autrement dit, vous avez vu mes besoins, vous pouviez rien faire. Vous en avez parlé à d'autres et eux ont pu m'aider. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et vous fûtes les seuls à le faire. Et oui, ça peut arriver même aux apôtres, cette chose-là. Ça a pu arriver même à un grand apôtre comme Paul, où tout le monde a oublié, pensant que tous les autres avaient pris soin de ses besoins. Et là, on voit que cette congrégation-là, des Philippiens, se sentait mal de ne pas avoir aidé au tout début. Et Paul leur dit, là, minute, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque tous ces besoins se sont fait voir, personne d'autre que vous, une seule congrégation, on peut se demander où est-ce qu'était Rome à ce moment-là? Où était Thessalonique? Ou Corinthe? Éphèse et Galate? Hein? Ou encore la ville de Colosse? Où est-ce qu'ils étaient, eux autres? Ou même la Odyssée et toutes les autres congrégations quant à cela. En fait, il y a tellement d'autres congrégations possibles où Paul a justement établi des églises. Là, je viens juste de parler de celles qui ont fait l'objet d'épîtres. Alors, toutes les autres, où est-ce qu'ils étaient? Lorsque Paul parle ici de donner et de recevoir, là, il parle des besoins, hein? Qu'est-ce que nous avons besoin de donner? Qu'as-tu besoin de recevoir? De quelle façon est-ce que nous pouvons prendre soin de toi, Paul? Toi qui souvent vas prêcher pendant toute la journée et même pendant la nuit, comme ça avait été le cas une fois, puis le lendemain à repartir et marcher un 30 km pour aller rencontrer un bateau. Alors, c'est ça qu'on peut lire dans Acte 20. Alors il a fait des choses qui étaient incroyables parfois. Et nous sommes rendus à une occasion où on voit qu'il n'y a qu'une seule congrégation qui avait pensé à l'aider. Et ce sont des gens qui sont supposés de vivre selon la voie de donner et non pas celle de prendre. Alors ici, on voit que les Philippiens ont appris qu'ils avaient fait quelque chose de bien, mais toutes les autres congrégations auraient dû normalement tirer de cela une leçon, mais non seulement celle à cette époque-là, mais à travers les âges, hein, apprendre que des congrégations complètes pourraient oublier. Et en passant, là, je n'essaie pas de vous donner un message en ce qui me concerne, j'essaie juste de vous montrer que parfois les gens peuvent présumer de certaines situations. Alors que certaines personnes pourraient dire, moi, non, je ne présumerai pas. Mais c'est souvent la minorité. Au verset 16, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que Thessalonique pensait? Alors non seulement une fois, mais deux fois à Thessalonique, vous m'avez envoyé ce que j'avais besoin, ce qui était nécessaire, et Thessalonique n'a même pas dit malheur à nous. On ne fait absolument rien. En d'autres mots, pourquoi est-ce qu'on prendrait soin de lui? Les gens de Philippe là-bas prennent soin de lui. Hey, il était à Thessalonique. Alors remarquez que peut-être qu'ils ne le savaient pas. Peut-être que Paul ne voulait pas leur dire pour ne pas les mettre mal à l'aise. Pourtant, ils ont dû voir des choses qui arrivaient pour Paul, que ses besoins étaient connus. Hein? On peut s'imaginer qu'ils auraient pu être au courant ou s'apercevoir de ses besoins pendant qu'il était là. Verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Au moins, frères et sœurs, vivez de la façon qui démontre que vous vivez selon la voie du don. Pas parce que j'ai besoin d'une douzaine d'œufs pour déjeuner que je dis ça. C'est pas ça que je dis là ici. Il dit, mais je veux voir des fruits. Verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il savait que les sacrifices sont reçus par Dieu comme un parfum de bonne odeur et que peut-être tout ce qu'il pouvait faire, c'était de prier. Si vous lisez les Écritures, on voit que nos prières montent devant Dieu. Donc, parfois, tout ce que les Philippiens pouvaient faire, c'était prier Dieu. Mais Paul est en train de leur dire, « Ne vous inquiétez pas, tout cela est monté devant le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. » Et vous êtes capable de voir dans les Écritures où l'encens qui est moulu et qui est brûlé sont une représentation des prières des saints qui montent vers Dieu. C'était le symbole de l'encens dans le temple, d'ailleurs. Donc, Paul leur dit, « Vous m'avez donné des choses, puisque vous avez prié pour moi. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Amen. Ce qui montre la fin de la lettre. Et finalement, il est écrit, « Saluez tous les saints en Jésus-Christ. » Alors, je peux vous demander, est-ce que vous dites toujours « saluez un tel aussi » Alors, parfois, les gens disent, à un moment donné, ou vont me dire, « N'oubliez pas, saluez un tel, dites bonjour à un tel autre. » Alors, je sais qu'on s'en souvient pas toujours. Ça me fait rien de me faire demander ce genre de choses-là. Mais parfois, c'est l'inverse. Les gens vont m'apporter des salutations d'autres personnes. Hein? On va me dire, « telle personne vous fait dire bonjour, tel autre aussi. » Alors, c'est quelque chose que j'aime. Je trouve ça merveilleux. Et je suis certain que c'est quelque chose que vous aimez également. Donc, envoyez vos salutations comme ça. Et vous allez voir que vous aussi, vous allez en recevoir. Et comme conséquence, cela permet d'établir des liens dans l'Église. Des liens entre les gens qui sont supposés être connus à cause de leur amour fraternel. Hein? Jusqu'à quel point est-ce que c'est difficile de se saluer les uns les autres? Hein? Est-ce que c'est difficile de dire, bon, dis bonjour à Bob, là? Il dit bonjour à Nicole également, puis à Jacques. Ensuite, Paul dit, « Les frères qui sont avec moi vous saluent. » Alors, ils lui disent, « Salue tous les saints là-bas. » Puis, en plus, tous les frères et sœurs ici te saluent également. Verset 22, « Tous les saints vous saluent. » Alors, on ne parle pas de salut militaire, tout le monde en ligne ici, là. « Et principalement ceux de la maison de César. » On parle de Néron à ce moment-là. À cette époque-là, il y avait des saints qui étaient dans la maison de César. Alors, quand on parle d'être dans la gueule du lion, c'est un point sur lequel on peut réfléchir aussi. Une des pires persécutions que l'Église de Dieu a eu à subir, et qui a duré une dizaine d'années, a eu lieu sous le règne de Néron. Et vous aviez des gens qui étaient suffisamment sages ou discrets, capables de tenir leur langue suffisamment pour fonctionner au sein même de la maison du plus méchant, du plus terrible dictateur de l'histoire humaine, Néron, qui un jour a crucifié 20 000 personnes. Il a été pire que Caligula et certains autres Césars. Et ici, vous avez des personnes qui sont dans la maison même de l'empereur et qui réussissent à y vivre. Alors, on peut comprendre qu'ils étaient heureux d'avoir les salutations des autres. Alors, il s'agissait peut-être d'esclaves ici. Des esclaves qui ont été appelés par Dieu et qui étaient obligés de pratiquer leur religion en cachette. Et peut-être que la raison pour laquelle Néron a crucifié tant de personnes quand Rome a brûlé, c'est parce qu'il disait « Il y en a même qui travaillent pour moi dans ma maison! » Alors, il s'agit ici d'un passage absolument extraordinaire, frères et sœurs. Et ça nous montre comment nous devrions aussi prier pour les frères et les sœurs un peu partout à travers le monde. Pour les gens du peuple de Dieu qui, parfois, sont dans des situations extrêmement pénibles. Des situations qui sont vraiment différentes de celles dans lesquelles nous vivons, nous, ici. Ou, comme je le disais tout à l'heure en blaguant, nous réussissons à nous débrouiller. Dans un certain sens, je suppose qu'on peut dire que nous nous débrouillons avec ce que nous avons. Nous avons certains styles de vie en Grande-Bretagne, au Canada, dans d'autres nations européennes, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bien entendu aux États-Unis aussi, qui ne peuvent se comparer à rien d'autre, alors que Dieu continue d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Et Paul conclut en disant « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ».